jour de demain est adieu. Il ne t'appartient pas. Ne porte pas sur demain le souci d'aujourd'hui.
Heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons parler de la prière. C'est Paul VI qui dit « Le monde moderne réclame des évangélisateurs qu'ils parlent aux hommes d'un Dieu qu'ils connaissent et fréquentent, comme s'ils voyaient l'invisible. » Et dans la même veine, c'est Paul Guy-Louis qui dit « Quiconque évangélise sans prier, un jour n'évangélisera plus. Ce n'est pas seulement qu'il oublie de recharger ses accus, c'est qu'il s'enfonce dans l'hypocrisie. Comment pourra-t-il évoquer comme vivant celui qu'il croit présent dans le monde et à qui il ne s'adresse jamais? Quiconque dit de Dieu « lui » sans jamais lui dire « tu » est en train d'oublier les traits du visage de Dieu. Un jour, Dieu ne sera plus qu'une idée et bientôt plus qu'un mot. On ne parle pas concrètement d'un Dieu qu'on n'écoute pas et à qui on ne parle jamais. Seule la prière rend notre foi authentique et concrète. Sans elle, les démarches actives elles-mêmes ne concrétiseront pas notre foi, ne témoigneront pas de Dieu. L'idée de Dieu sans dialogue avec lui ne se concrétise pas. Le vécu de l'évangélisation ne comporte pas seulement le rapprochement des hommes, il implique le dialogue avec Dieu. Quelle est l'origine de la prière? La prière n'a pas son origine ni son point de départ dans notre cœur. La vraie prière suit le mouvement inverse. La prière a son départ en Dieu, pour ensuite descendre et se déverser sur nous. Dans une homélie de Noël, le pape Paul VI disait que « prier, c'est se placer dans le cône de lumière qui émane du Christ ressuscité. » Prier, dit saint Benoît, consiste à s'exposer à la lumière qui divinise, cet être illuminé et métamorphosé par les rayons qui émanent du Christ transfiguré. Jésus transfiguré, c'est Jésus tout entier pénétré et imprégné de ce rayon lumineux qui sans cesse descend du Père et qui s'appelle la prière. La prière est donc passive. Elle consiste à s'exposer tout simplement à la lumière qui émane du Christ transfiguré. Dieu est lumière et l'homme est vitrail. L'existence d'un vitrail n'a de sens que s'il est traversé par la lumière qui met en valeur toutes les couleurs, tous les charismes que l'artiste divin a voulu mettre en lui. Traversé par la lumière, un vitrail devient lui aussi lumière. Traversé par la lumière du Christ, l'homme devient lumière, il est divinisé, christifié, déifié. Prier, c'est être là et regarder. Prier, c'est s'exposer devant le Christ comme un vitrail afin d'être traversé par sa lumière. Ce qui est à souligner aussi lorsque l'on parle de la prière, c'est la complémentarité entre la prière personnelle et la prière communautaire. Si dans son enseignement sur la prière, Jésus parle également de la prière communautaire et du Notre Père, c'est pour souligner la complémentarité entre la prière personnelle et la prière communautaire. L'une ne va pas sans l'autre. La prière communautaire nous donne les mots pour prier et la prière personnelle nous permet d'assimiler, de digérer tout ce qui nous est donné par l'Église dans la liturgie. Le mystère de la prière fonctionne donc comme le balancier d'une horloge. Tout commence dans la prière liturgique, communautaire, et tout termine dans la prière solitaire, le face-à-face avec Dieu. Tout ce qui est donné dans la prière liturgique, avec les frères et les sœurs, est destiné à être reçu et assimilé dans la prière du cœur et digéré dans la solitude au pied du Seigneur, dans la chambre secrète de notre cœur. Retire-toi dans ta chambre, ferme sur toi la porte et prie. Matthieu chapitre 5, verset 6. La chambre, l'endroit retiré de notre prière, est le symbole de cette importance seul à seul et face à face avec le Seigneur. C'est important et capital car si la liturgie n'est pas assimilée dans la prière solitaire devant Dieu, finalement elle ne sert pas à grand chose. Il en va de même d'un repas. Celui-ci ne pourra nous restaurer, nous reconstituer que si nous le digérons. Autrement, comme on dit, il nous restera sur l'estomac, ce qui n'est pas agréable. La liturgie, elle aussi, n'est pas appelée à nous rester sur l'estomac. Cela signifie que si nous ne prenons pas le temps d'assimiler ce que nous recevons dans la liturgie, petit à petit le cœur devient superficiel, les célébrations elles-mêmes deviennent pelantes, ennuyeuses. Prier n'est pas le monopole des moines et des moniales, ni même des chrétiens, mais la prière chrétienne a quelque chose de spécifique. Elle garde présente dans le monde la prière même de Jésus. À sa manière, elle annonce Jésus. Et c'est d'ailleurs pour témoigner d'une église qui prie que les premiers cisterciens avaient été appelés en Algérie. À l'indépendance de l'Algérie, il s'en est fallu de peu pour que le monastère de Tibérine soit fermé. Les monastères cisterciens sont normalement situés là où la présence d'une communauté chrétienne permet de recruter sur place des religieux et l'Algérie s'étant vidée de sa population chrétienne au moment de l'indépendance, ce n'était plus le cas. Et c'est ainsi que l'abbé général des cisterciens de l'époque, dont Gabriel sortait, avait décidé la fermeture de Tibérie. Mais c'était sans compter sur l'archevêque visionnaire d'Alger de l'époque, Monseigneur Duval, pour qui l'Église a plus que jamais sa place en Algérie dans le respect de la tradition spirituelle du pays, l'islam. Il disait que pour vivre leur mission d'amitié et de solidarité avec le peuple algérien, les chrétiens ont besoin du soutien de communautés de contemplatifs. Et c'est ainsi que dans les couloirs du Concile à Rome, le cardinal Duval proteste avec la plus grande vigueur auprès de Don Sortet contre le décret de fermeture de Notre-Dame de l'Atlas. Et le soir même, l'abbé général décède, victime d'une crise cardiaque. Monseigneur Duval dira plus tard avec humour, « J'ai tué l'abbé général des Trappistes. » Bon, les événements ne sont pas liés, bien sûr, et Monseigneur Duval ne s'est pas réjoui de la mort de Don Sortet, mais toujours est-il que Tibérine est sauvée. Cela dit, le monastère ne compte plus que 4 moines. En février 1964, Don Jean de la Croix, le nouvel abbé d'Aiguebel, le responsable direct de Tibérine, prend le bateau pour Alger et rend visite à l'abbé Carmona, curé de Bab-el-Oued. Celui-ci lui fait comprendre la grande déroute de l'Église d'Algérie, qui doit se convertir d'une église de masse à une église de service, avec une communauté réduite. L'abbé Carmona a cette parole très forte, « Si les moines s'en vont, moi je ne tiens pas le coup. » Et c'est alors que Don Jean de la Croix comprend le rôle spirituel que doit remplir le monastère dans le nouveau contexte de l'Église algérienne. Décidé à sauver Notre-Dame de l'Atlas, il se rend chez l'archevêque d'Alger, qui lui réserve d'abord un accueil froid, comme ces glaciers de Savoie. Mais lorsque Monseigneur Duval comprend l'intention de l'abbé d'Aiguebel, le ton change. 900 000 chrétiens qui partent d'un coup, c'est une apocalypse, mon père. L'Église traversait une très grande crise. Vous me dites, les moines restent. Eh bien, dit Monseigneur Duval, si les moines restent, l'Église continue à vivre. La prière tient une grande place dans la Bible. Il y a bien sûr les psaumes qui sont encore la matière de notre prière. Il y a aussi ces prières qu'on trouve dans le livre de Samuel, qui sont la manifestation d'une foi absolue dans le Dieu de l'Alliance. La prière tient une très grande place dans le Nouveau Testament, dans les Évangiles en particulier. Ils nous disent que Jésus a prié, ils nous rapportent quelques-unes de ses prières et son enseignement sur la prière. Un enseignement qui sort évidemment de sa propre expérience. Quand Jésus parle de la prière, c'est à partir de la sienne. Et parmi les évangélistes, Luc, plus que les autres, insiste sur la prière. Chez Luc, Jésus insiste particulièrement sur la constance dans la prière, la persévérance. Voyons de plus près l'extrait de la parole de Dieu que je nous invite à prier dans le cadre de la Lectio Divina, qui provient de l'évangile de Luc, chapitre 11, versets 1 à 13. Ce qui a fait naître dans le cœur des disciples de Jésus le désir d'apprendre à prier, c'est d'avoir vu Jésus prier, d'avoir vu Jésus consacrer du temps à la prière. Et à propos de personnes qui consacrent du temps à la prière, dans un témoignage sur la prière, Christian de Chergé raconte ceci. J'ai vu les hommes prier autrement que mes pères. J'avais 5 ans et je découvrais l'Algérie pour un premier séjour de 3 ans. Je garde une profonde reconnaissance à ma mère qui nous a appris, à mes frères et à moi, le respect de la droiture et des attitudes de cette prière musulmane. Aussi, j'ai toujours su que le Dieu de l'islam et le Dieu de Jésus-Christ ne font pas nombre. En disant cela, Christian se rappelle qu'enfant, sur le chemin du marché ou de l'église, il observait la population musulmane avec laquelle la famille, confinée dans le monde clos et protégée du mess des officiers, n'a aucun contact. Christian est impressionné par la ferveur des hommes prosternés à même le trottoir, toute affaire cessante à l'appel du muezzin. Il ne se lasse pas d'observer la foule qui se rassemble à la mosquée le vendredi. Ses frères Henri lui interrogent sa mère. « Maman, qu'est-ce qu'ils font ?»« Ils font leur prière, » répond-elle. « Il ne faut surtout pas se moquer. Eux aussi adorent Dieu. » Et dans un autre témoignage, Christian dira encore ceci. « J'ai connu des Algériens chez qui cette absolue confiance en Dieu, défenseur de l'opprimé, s'alliait avec une impressionnante capacité d'oubli des injures et une capacité de pardon. J'ai toujours pressenti qu'ils puisaient cette force dans un dialogue vécu avec Dieu partout présent, dialogue stimulé par les 5 prières du jour. Et de fait, je n'ai jamais pu voir un musulman en prière sans me laisser interpeller, ni entendre l'appel du muezzin sans croire qu'il m'était aussi adressé à moi. Par contre, je répugnais alors à entrer dans une mosquée, peut-être le sentiment qu'il leur fallait au moins cet endroit où se sentir chez soi. S'ils respectent trop les musulmans pour oser s'introduire dans leur lieu de prière, Christian de Chergé garde dans le cœur la vivante mémoire de l'un d'entre eux, Mohamed, tué pour l'avoir protégé. Pendant 13 ans, il ne parlera à personne de cet événement qui fut à l'origine de son appel à vivre une vocation contemplative en Algérie. En 1972, devant ses frères moines de Tibérine, il en fera pour la première fois le récit. Dans le sang de cet ami, assassiné pour n'avoir pas voulu pactiser avec la haine, écrit Christian, j'ai su que mon appel à suivre le Christ devait trouver à se vivre tôt ou tard dans le pays même où m'avait été donné ce gage de l'amour le plus grand. J'ai su du même coup que cette consécration devait se couler dans une prière en commun pour être vraiment témoignage d'Église et signe de la communion des saints. À propos de la prière de notre Père, enseignée par Jésus, Mgr Paul Desparge, archevêque d'Alger, lettre pastorale de novembre 2018, intitulée « La béatification de nos frères et sœurs, une grâce pour notre Église », nous adresse cette interpellation. En récitant le Notre Père, nous disons que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Désirons-nous vraiment que le règne de Dieu, que la volonté de Dieu soit faite dans nos vies et par nos vies? Le cardinal Martini fait très bien le lien entre les premières demandes que nous adressons au Seigneur dans le Notre Père, demande concernant la sanctification de son nom, que ton nom soit sanctifié, et la venue de son règne, que ton règne vienne. Il fait le lien entre ces 2 premières demandes et celles qui suivent, la demande du pain quotidien, la demande du pardon et la demande de ne pas entrer en tentation. Eh bien, si nous faisons ces demandes, c'est parce que nous demandons à Dieu ce qui est nécessaire pour que son règne vienne. Et de quoi avons-nous besoin pour que le règne de Dieu vienne? Nous avons besoin pour que son règne vienne de persévérer au jour le jour, grâce au pain quotidien. Nous avons besoin d'une grande miséricorde et du pardon réciproque, de la capacité de nous accueillir mutuellement, et du pardon que Dieu accorde à nos chutes continuelles et à nos insuffisances dans la réalisation de son royaume. Nous avons besoin du soutien de Dieu pour ne pas céder à la tentation au moment de l'épreuve et quand nous constatons que le royaume de Dieu décline autour de nous. À propos du pardon réciproque, avant d'être enlevé puis séquestré par des membres du GIA, dans la nuit du 26 au 27 mars 1996, les moines de Tibérine avaient eux-mêmes été directement confrontés à la menace directe des islamistes. Dans la soirée du 24 décembre 1993, vers 19h15, alors même qu'ils s'apprêtent à fêter Noël, les moines reçoivent la visite d'un groupe de 6 hommes armés. Pendant que 3 hommes restent à l'extérieur, 3 autres font irruption à l'hôtellerie et demandent à voir le responsable du lieu. Christian de Chergé, le supérieur du monastère, arrive et se trouve face à face avec le chef du groupe. Il refusera de satisfaire à ses exigences car il n'entend pas céder à la menace. Écoutons le récit de cette soirée par Hubert de Chergé, le frère de Christian, qui en a fait un très beau témoignage. C'était par un crépuscule d'hiver, dans un climat de violence. Le pays était partagé entre les frères de la montagne, les islamistes et les frères de la plaine, l'armée régulière algérienne. À la tête du commando, le chef islamiste, Saya Atia, était venu cogner à la porte du monastère, demandant à parler au pape du lieu. Il avait du sang sur les mains. Quelques jours auparavant, à 4 kilomètres à vol d'oiseau de Tibérine, il avait égorgé 12 Croates chrétiens. Il prétendait soumettre les moines à un certain nombre d'exigences. Christian expliqua d'emblée que le monastère était un lieu de paix et que nul n'y entrerait en armes. Le chef du commando choisit de parlementer à l'extérieur. Sur un ton menaçant, il réclama l'envoi du médecin, le frère Luc, dans les montagnes, afin de soigner les combattants. Il exigea un certain nombre d'autres avantages, particulièrement de l'argent. Christian refusa tout. L'argent, bien sûr, car le monastère était pauvre, mais surtout parce qu'il ne voulait pas financer des armes. Quant au médecin, pas question. Les combattants seraient soignés au monastère au nom de la charité et de la fraternité que l'on doit à tout être humain. Le nom déterminé et doux, opposé chaque fois à Saya Atia, a énervé ce dernier. Il s'exclame soudain « Tu n'as pas le choix ». Christian répond « Si j'ai le choix ». Celui de sacrifier sa vie. Saya Atia est impressionné. Il avertit « Nous reviendrons ». Et Christian de répondre « Ce soir nous allons fêter Noël. C'est la naissance du prince de la paix. Jésus est l'un des prophètes des musulmans. » Le chef du commando recule. « Excuse-moi, je ne savais pas. Il ne reviendra jamais. Blessé dans un combat avec l'armée algérienne, il agonisera dans des souffrances terribles durant 10 de jours sans faire appeler le médecin dans les montagnes. » Et Christian, essayant d'imaginer l'arrivée de Saya Atia au paradis, plaidait les circonstances atténuantes, disant « Je demande à Dieu de lui pardonner. » C'est donc cette fois-là, le visage et les mains désarmés, que Christian de Chergé qui ont désarmé ses visitatiles plus tard, qu'en se présentant les mains nues au meurtrier surarmé, il est possible de le désarmer. non seulement en lui donnant le voir de près, ce visage d'un frère en humanité qu'il menaçait de mort, mais aussi en lui laissant sa meilleure chance de révéler quelque chose de son propre visage caché dans les profondeurs de Dieu. Christian avoue que ce jour-là, il a eu le sentiment de frôler la mort. Mais après le départ de leurs visiteurs, les moines doivent continuer à vivre. Nous avons continué en nous disant « On tient encore aujourd'hui, et puis demain, et puis après-demain. » Il a fallu nous laisser désarmer et renoncer à cette attitude de violence qui aurait été de réagir à une provocation par un durcissement. Christian se souvient alors du commandement de Jésus, « Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. » Et il se demande quelle prière il peut faire pour le responsable du groupe armé dont la menace continue à peser sur lui et ses frères. « Je ne peux pas demander au bon Dieu, tue-le. Pas possible. » Alors ma prière est venue. « Désarme-le, désarme-les. » Ça, j'ai le droit de le demander. Et puis après, je me suis dit, est-ce que j'ai le droit de demander « désarme-le » si je ne commence pas par dire « désarme-moi » et « désarme-nous » en communauté? Et en fait, oui, c'est ma prière quotidienne. Je vous la confie tout simplement. Tous les soirs, je dis « désarme-moi, désarme-nous, désarme-les ». Par cette prière, Christian définit l'exigence évangélique de désarmement qui se trouve au cœur même de la spiritualité chrétienne. En formulant cette exigence, Christian ne radicalise pas l'évangile, mais il exprime le radicalisme même de l'évangile. À travers cette spiritualité du désarmement, qui n'est autre que la spiritualité de la non-violence, Christian donne de Dieu ce témoignage essentiel. Le Dieu de l'Évangile est un Dieu désarmé qui invite l'homme à se désarmer pour pouvoir désarmer l'autre homme. Mais il ne faut pas s'y tromper. Cette volonté de désarmement ne signifie nullement la résignation de la volonté. Il ne s'agit pas de ne pas résister aux méchants et de se soumettre passivement à la violence. À cet égard, force et de reconnaître que la traduction de la Bible qui fait dire à Jésus dans l'évangile de Matthieu, chapitre 5, verset 39, qu'il ne faut pas résister aux méchants, est particulièrement malheureuse. Le véritable sens de la parole de Jésus ne peut faire aucun doute. Elle signifie « ne résistez pas au mal en imitant le méchant ». Léon Tolstoï traduisait toujours ainsi la maxime évangélique « Ne résistez pas aux méchants par la violence. » Tous les arguments qu'on oppose à la non-résistance au mal, souligne l'écrivain russe, viennent de ce qu'au lieu de comprendre qu'il est dit « Ne t'oppose pas au mal ou à la violence par le mal ou la violence », on comprend « Ne t'oppose pas au mal », c'est-à-dire « Sois indifférent au mal ». Il est dit « Vous êtes habitué à lutter contre le mal par la violence et par la vengeance, c'est un mauvais moyen ». Le meilleur moyen n'est pas la vengeance, mais la bonté. Ainsi, la volonté de désarmement s'enracine-t-elle dans la volonté de résister avec la plus grande détermination à la violence, à sa logique, à son engrenage, à sa fatalité. Il ne s'agit pas de briser le ressort de la volonté, mais au contraire de le tendre à l'extrême afin de résister à l'emprise de la violence. C'est parce que la contre-violence fait elle-même partie du système de la violence qu'elle est inefficace pour lutter contre lui. C'est pour cette raison que seule la non-violence permet de lutter efficacement contre ce système de la violence. Christian situe explicitement le christianisme dans le dynamisme de la non-violence. Dans la passion de Jésus, affirme-t-il, il faut bien reconnaître le témoignage, le martyr de la non-violence. Ainsi, l'une des questions théologiques les plus fondamentales revient en définitive à une question d'orthographe. Comment écrivons-nous le Dieu des armées? Trop souvent, les religions ont écrit le Dieu des armées en trois mots, avec une faute d'orthographe, c'est-à-dire en trois mots. Le vrai Dieu ne peut être que le Dieu des armées en deux mots. Jésus a désarmé Dieu, plus exactement, il a désarmé les images que l'homme s'est faites de Dieu en l'imaginant à sa propre ressemblance. Jésus a désarmé tous les dieux désarmés, il a renversé les dieux tout-puissants de leur trône et il a témoigné de l'humilité de Dieu et de sa discrétion, de sa courtoisie, de sa non-violence. Et pour conclure, nous allons écouter un très beau témoignage de frère Michael. Frère Michael, qui est actuellement à l'abbaye d'Aiguebel, aurait dû en principe être moine à Tibiri. La date de son noviciat était fixée, mais entre-temps, il y a eu l'enlèvement et l'assassinat des moines. Son rêve a été ainsi brisé. Et il témoigne dans le témoignage que nous allons entendre et qui va conclure cet enseignement, à quel point la réflexion de Christian sur la non-violence l'a aidé dans un chemin vers le pardon.
Frère Michael était dominicain en Pologne quand il décide de rejoindre l'ordre des Trappistes à Tibérine. Il se rend là-bas à Noël 1995 et fixe alors avec Christian de Chergé la date de son noviciat quelques mois plus tard, le jour de Pâques.
Après, il m'a envoyé tout de suite cette petite carte postale avec un enfant algérien. Je n'oublie pas notre rencontre là-bas, un rayon de soleil. Frère Christian, je pensais, je rêvais qu'il va tracer mes chemins, mais ce n'était pas possible. Peut-être je ne suis pas digne. Mais il reste en moi comme l'ami, très intime.
L'enlèvement des moines, une semaine avant la date prévue du noviciat et leur exécution ensuite, prive frère Michael de son entrée à Tibérine. Après 3 ans à Alger dans une première communauté, il rejoint finalement l'abbaye d'Aiguebel en France.
J'ai eu des problèmes avec les pardons. C'est-à-dire que je détestais les terroristes. Doucement, doucement, je ne vais pas dire que j'ai fini ce travail, mais pour moi, c'est une grande blessure aussi. Parce que c'était ma vie, mes rêves, qui étaient gommés, effacés. J'ai repris la prière des frères Christian, et quand je regarde le Christ, j'ai pris simplement désarmez-nous, désarmez-les. Je répète ça. Et je pense que doucement, doucement, le Seigneur change mon cœur. Et un jour, je serai prêt à pardonner.